La fin du premier siècle. Nous avons terminé ce que l'Esprit de Dieu nous présente prophétiquement dans l'Apocalypse relativement à l'Église du Seigneur sur la terre. Son histoire, en dehors de cela, doit être tirée de documents humains sujets à l'erreur. Il faudrait beaucoup de volumes pour raconter tout ce qui concerne ce qui porte le nom d'Église chrétienne. Et ce récit renfermerait bien des choses tristes et douloureuses, car l'Église s'est complètement détournée des pensées de Christ, et ce déclin a commencé dès les jours apostoliques. Elle est devenue ce champ où l'ivraie croît en abondance, le grand arbre qui abrite sous ses branches toutes sortes d'oiseaux, la pâte imprégnée de levain, Matthieu 13. Mais au milieu de tout ce mal qui a envahi l'Église, Dieu n'a pas cessé à toutes les époques d'y avoir ses fidèles témoins. Les premiers furent ceux que l'on nomme plus spécialement martyrs ou témoins par excellence. Ils scellèrent de leur sang leur foi au Seigneur et appartiennent à la période figurée par l'assemblée de Smyrne. L'exemple de leur foi, de leur constance dans les tourments, est bien propre à encourager. C'est en même temps un témoignage puissant rendu à la vérité. Pour eux, Christ était une personne vivante qui avait souffert pour leur salut, et ils donnaient leur vie pour lui. Ils n'avaient peut-être pas une aussi grande connaissance des vérités de l'Écriture que nous, mais ils connaissaient assez de l'amour de Christ pour n'être ébranlés ni par promesse, ni par menace, ni par torture. Puissions-nous, dans nos temps moins difficiles en un sens, avoir un peu de cet amour qui nous fera nous séparer du monde et vivre plus entièrement pour celui qui nous a aimés. On a dit croire et souffrir et non pas écrire était ce qui caractérisait les premiers chrétiens. Nous n'avons donc que peu de récits datant de ces temps pour nous dire ce qu'ils endurèrent. Nous avons parlé de la persécution qui eut lieu sous Néron, mais c'est un historien païen qui la rapporte. On peut d'ailleurs aisément se rendre compte de ce qui appelait sur eux l'attention publique et la haine du monde. Les petits groupes de disciples de Christ, dispersés çà et là dans l'Empire romain, s'y trouvaient littéralement comme des brebis au milieu des loups. Leur croyance n'était celle d'aucune nation, leur culte n'était pas compté parmi ceux que Rome tolérait, de sorte que leur sécurité était le silence et l'obscurité. Mais la foi dans le cœur est un principe vivant et actif qui ne peut rester ignoré. La religion chrétienne devint agressive à cause de la puissance de vie qui était en elle et qui la faisait tellement différer des religions mortes du paganisme. Elle devint bientôt importune par le fait même qu'elle se tenait à part des diverses formes de culte qui toutes se distinguaient par une pompe extérieure. Les règnes de Vespasien et de Titus, celui qui prit et renversa Jérusalem, semble avoir été un temps de repos pour l'Église. Il en fut autrement sous leur successeur Domitien, prince lâche, soupçonneux et cruel. Elle eut alors à subir une violente persécution qui dura une année. Le bruit était venu aux oreilles de Domitien qu'un personnage de la race de David devait paraître, auquel appartiendrait l'empire du monde. Confondant les chrétiens avec les juifs, l'empereur se mit à persécuter cruellement les premiers. Il n'épargna même pas les Romains des plus nobles familles, dès qu'ils lui étaient signalés comme chrétiens, les faisant mettre à mort ou les envoyant en exil, après avoir confisqué leurs biens. Il bannit plusieurs membres de sa propre famille et fit même mourir son cousin Flavius Clément, dont la femme Flavia Domitia, sa propre nièce, fut envoyée en exil. Leur crime était d'avoir embrassé l'Évangile. Nous voyons cependant par là qu'en dépit de tous les efforts de la puissance impériale, malgré le fer et le feu, le christianisme ne s'était pas seulement répandu dans les classes inférieures de la société, mais se trouvait jusque sur les marches du trône. C'est à cette époque que l'apôtre Jean, le seul survivant des 12 apôtres, fut exilé dans l'île sauvage de Patmos, où le Seigneur fit passer devant son esprit les visions de gloire et de jugement qu'il décrit dans l'Apocalypse. La persécution sous Domitien fut des plus cruelles, mais ne dura pas longtemps. Avant de périr assassiné, il avait permis à ceux qui avaient été exilés à cause de leur foi de rentrer dans leur foyer. Mais ce qui laissait subsister le danger pour les chrétiens dans ces premiers temps, c'est qu'on les confondait avec les juifs toujours prêts à se soulever. Voici, à ce sujet, un fait qui nous est raconté. Domitien, dont l'esprit soupçonneux était toujours en éveil, avait entendu dire qu'en Judée vivaient encore des descendants de David, parents de Christ. Craignant qu'ils ne revendiquassent un jour la royauté, il donna l'ordre de les saisir et de les amener à Rome. C'étaient deux petits-fils de Jude, le frère du Seigneur. Ils furent conduits devant l'empereur qui les interrogea. Ils ne firent aucune difficulté pour reconnaître qu'ils étaient descendants de David et parents de Christ. Domitien leur demanda alors quelles étaient leurs possessions et leurs biens. Ils répondirent qu'ils n'avaient que quelques arpents de terre qu'ils cultivaient et dont le produit leur servait à payer les impôts et à se nourrir. Là-dessus, l'empereur ordonna qu'on examinât leurs mains qui, en effet, étaient rudes et calleuses, comme celles des gens qui travaillent la terre. Interrogés touchant le règne de Christ, quand et où il devait apparaître, ils répondirent que ce règne n'était pas de ce monde, mais qu'il était céleste et spirituel, et ne serait établi qu'à la fin du monde. Voyant que c'étaient des gens pauvres et inoffensifs, complètement rassurés d'ailleurs par leur réponse, Domitien les laissa aller, et pendant un temps cessa de persécuter les chrétiens. C'est à la fin de son règne que la persécution redoubla de fureur. Nerva succéda à Domitien. Durant les deux années de son règne, les chrétiens furent en paix. Il rappela les bannis, leur rendit leurs biens, et même ordonna que les esclaves qui avaient trahi leur maître chrétien fussent mis à mort. Mais le christianisme restait toujours une religion non reconnue par l'État. Les chrétiens pouvaient parfois jouir d'un temps de répit, mais les lois ne les protégeaient pas. Il n'y avait pour eux aucun recours s'il plaisait à quelque gouverneur de les poursuivre, ou si, pour une cause ou une autre, la populace se soulevait contre eux. Au court règne de Nerva succéda l'an 98 celui de Trajan qui dura 19 ans et dont nous reparlerons. C'est vers le commencement de ce règne que mourut l'apôtre Jean. Les écrits chrétiens de cette époque sont très rares. Je mentionnerai les deux plus remarquables. L'un est la lettre que Clément écrivit aux Corinthiens. Plusieurs pensent que ce Clément est celui dont Paul parle comme étant un de ses compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie, Philippiens 4, verset 3. Sa lettre aux Corinthiens était motivée par les dissensions survenues dans cette assemblée. Il rappelle l'état de choses qui y existait plusieurs années auparavant, quand Paul leur écrivit ces deux épîtres, et constate avec douleur que leur condition était pire que lorsque l'apôtre s'adressait à eux. Il les exhorte donc et les supplie de se repentir et de revenir à la paix et à la concorde. Dans une autre partie de sa lettre, il place devant les fidèles les fondements de leur commune foi en ces termes. Regardons constamment, bien-aimés, au sang de Christ. Considérons combien est précieux pour Dieu ce sang qui a été versé pour notre salut, et qui place la grâce de la repentance devant le monde entier. Nous ne sommes pas justifiés par nous-mêmes, par notre sagesse, notre intelligence, notre piété, ou par des œuvres que nous aurions accomplies en sainteté de cœur, mais par la foi. C'est par elle que, dès le commencement, le Dieu Tout-Puissant a justifié les hommes. Il est intéressant de savoir que ces paroles étaient lues, non seulement à Corinthe, mais dans toutes les assemblées des premiers chrétiens, de même que les écrits d'autres auteurs de cette époque. Mais nous devons ajouter qu'à côté de paroles saines, il se trouve dans les écrits de ce temps, si rapprochés pourtant des apôtres, beaucoup d'erreurs, qui montrent combien l'on s'écartait de leurs purs et simples enseignements. Une profonde ligne de démarcation sépare les écrits inspirés de ceux des pères apostoliques, comme l'on nomme ces écrivains qui étaient les disciples immédiats des apôtres. Le second écrit est la lettre à Dioniette. Elle est adressée par un auteur inconnu à quelqu'un qui avait désiré être informé de la doctrine et de la manière de vivre des chrétiens, et date probablement de la fin du premier siècle. Dioniette avait posé, quant à cette nouvelle sorte d'homme, des questions telles que celles-ci. En quel Dieu mettent-ils leur confiance? Comment rendent-ils culte? Comment se fait-il qu'ils regardent le monde comme au-dessous d'eux, qu'ils méprisent la mort, ne tiennent aucun compte des dieux légalement reconnus comme tels par les Grecs, et ne suivent pas non plus la superstition juive? Que signifie cette affection qu'ils se portent l'un à l'autre? Comment se fait-il que cette nouvelle sorte d'homme et cette nouvelle manière de vivre soient entrées dans le courant du monde maintenant et non auparavant? L'écrivain répond: les chrétiens ne sont pas séparés des autres hommes par leur demeure terrestre, ni par leur langage ou leurs coutumes. Nulle part ils n'habitent des cités qui leur soient propres. Ils n'ont pas une autre manière de parler que ceux qui les entourent, ni n'affectent une vie singulière. Ils demeurent dans les villes des Grecs et des barbares, selon que le lot leur a été assigné. Mais tout en se conformant aux usages des pays par rapport aux vêtements, à la nourriture et aux autres choses qui appartiennent à la vie extérieure, ils montrent cependant dans leur conduite quelque chose qui semble étrange à tous. Ils habitent leur contrée natale, mais comme étrangers. Ils prennent leur part de toutes les charges comme citoyens, et cependant endurent toutes sortes de torts comme s'ils étaient gens de dehors. Toute terre étrangère leur est une patrie, et la patrie de chacun d'eux lui est comme un sol étranger. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils séjournent sur la terre, mais leur bourgeoisie est dans le ciel. Ils obéissent aux lois, mais sont au-dessus des lois par leur vie. Ils aiment tous les hommes et sont persécutés par tous. Ils sont inconnus et cependant faits vivants. Ils sont pauvres et en enrichissent plusieurs, blasphémés et cependant justifiés. On les couvre d'opprobre et eux bénissent. Touchant la religion des chrétiens, voici ce que dit notre auteur. Leur religion ne leur a pas été donnée comme une invention terrestre. Ils n'y ont pas été initiés par le canal de mystères humains. Le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses, le Dieu invisible lui-même a inauguré du ciel parmi les hommes la vérité, la sainte et insondable parole, et l'a fixée fermement dans leur cœur. Et ce n'a pas été, comme on pourrait se l'imaginer, en envoyant quelque être subordonné, un prince ou un ange, mais celui qui est l'architecte et le créateur de toutes choses. Un fils des hommes aurait dit que, dans ce cas, c'était pour frapper de terreur et dominer par le jugement. Mais non, il est venu en douceur et en débonnaireté. Dieu l'a envoyé pour sauver, pour persuader les hommes et non les contraindre, car en Dieu il n'y a pas de contrainte. Il l'a envoyé en amour et non en jugement. Il a donné lui-même son propre Fils en rançon pour nous, le saint pour les iniques, l'innocent pour les coupables, le juste pour les injustes. Ô doux et précieux échange, œuvre qui passe toute conception, bienfaits au-delà de toute attente, l'iniquité de plusieurs est cachée dans une seule personne juste, et la justice d'un seul justifie plusieurs iniques. On est heureux de lire de telles paroles, qui sont encore un reflet de ce que nous trouvons dans les saints écrits des apôtres.